La cerise sur le gâteau de Pierre Hiverna. Pierre, aujourd'hui, bah tiens, vous allez nous parler du Brexit.
Oui,
vous,
ça va. Ça
vous
va
nous donner une cerise culinaire.
Non, c'est pas de cerise culinaire. On va changer d'univers. Et effectivement, je vais vous parler du Brexit parce que pour le 29 mars prochain, on parle beaucoup des effets de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sur l'économie, sur les marchés, sur l'import-export en général, sur la livre versus l'euro, etc. Mais on oublie souvent la toute première conséquence, celle qui va toucher chaque Britannique au quotidien, l'accès à l'alimentation. Et croyez-moi, Caroline, c'est vertigineux. Un groupe de chercheurs de renom se sont penchés sur ce brûlant sujet et ont publié l'été dernier un rapport édifiant intitulé « Feeding Britain, Food Security After Brexit ». En français, nourrir la Grande-Bretagne, la sécurité alimentaire après le Brexit. Et pour bien comprendre la catastrophe qu'ils annoncent, il faut revenir un tout petit peu en arrière sur l'histoire de l'économie agricole d'une île. Et pas n'importe quelle île, celle d'un empire. Un empire qui, dès la fin du XVIIIe siècle, a d'abord importé de la nourriture de ses nombreuses colonies et des États-Unis, puis des pays du Commonwealth. Une île dont les gouvernants, conservateurs comme travaillistes, ont toujours considéré qu'il valait mieux faire fructifier son industrie et que la City produirait toujours assez de valeur boursière pour pouvoir acheter la nourriture ailleurs, généralement là où elle est la moins chère. Résultat des courses, 51% de ce que consomment les Anglais vient aujourd'hui de l'étranger, dont 30% de l'Union européenne. Le système s'est tellement emballé que les importations fonctionnent à flux tendu et qu'un arrêt soudain du balai continu de camions et de containers débarquant quotidiennement en Grande-Bretagne aboutirait au bout de 3 à 5 jours à une pénurie majeure de nourriture sur l'ensemble du pays. Et les chercheurs de calculer que le passage de la douane à Calais ou à Douvres, prenant 2 ou 3 heures par camion venant de l'Union au lieu des 2 ou 3 minutes actuelles, vont engendrer des embouteillages ingérables, dissuadant les exportateurs.
Oui, mais enfin certains, et en particulier les tenants du Brexit, ont objecté que les conséquences représenteraient justement de fantastiques opportunités pour renverser la vapeur, en revivifiant les productions locales, en passant des accords bilatéraux hors Union européenne et notamment avec les États-Unis.
C'est exact, Caroline. Mais comme le référendum sur le Brexit a fait circuler de nombreuses informations fondées sur la mauvaise foi de ses partisans, on découvre aujourd'hui les dimensions temporalité et sociologie du consommateur. Temporalité, car comme le soulignent tous les syndicats agricoles britanniques, le temps nécessaire pour modifier un système qui profite aux industries agroalimentaires et pas aux paysans, ça nous rappelle quelque chose, est un temps long. Tout autant que le temps nécessaire à mettre en place une politique qui intégrerait la dimension transition écologique et développement durable. Quant à échanger l'importation de fruits et légumes d'Espagne contre de la viande de bœuf d'Amérique du Nord traitée aux hormones ou du poulet brésilien passé au chlore, toute pratique interdite dans l'Union, il est fort douteux que le consommateur britannique de 2019 s'y résolve avec appétit et enthousiasme.